Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien Okapi Service. Nous parlons aujourd'hui des effets de l'allègement de la dette de la RDC par le FMI. Vous savez, le Fonds monétaire international a allégé la dette des 25 pays les plus pauvres et les plus vulnérables dans le monde, dont parmi lesquels la RDC. Ces pays vont recevoir des dons pour couvrir leurs obligations envers le FMI pour une phase initiale de 6 mois, ce qui leur permettra de consacrer une grande partie de leurs faibles ressources financières aux soins médicaux et aux autres efforts de lutte contre la pandémie de COVID-19. Que peuvent être les effets de cet allègement de la dette sur l'économie du pays et particulièrement dans la vie des citoyens congolais? Nous avons suivi hier, les G20 s'engagent sur un moratoire sur la dette des pays pauvres. Donc à partir du 1er mai 2020, tous les intérêts sur la dette qui auraient dû être versés par les 77 États en voie de développement, aidés par la Banque mondiale, resteront dans leur caisse. Et cela pendant 6 mois. Mais 6 mois reconductibles. Une mesure prise pour que chaque État puisse répondre à l'urgence sanitaire, économique et sociale provoquée par la pandémie. C'est la décision prise par les ministres et banquiers centraux du groupe G20 hier, mercredi 15 avril. Eh bien, pour en savoir plus, nous avons en ligne Monsieur Al Kitenge, analyste économique. Al, bonjour.
Bonjour. Je vous souhaite une très bonne émission.
Merci, bienvenue Al. Alors la première question, nous parlons des effets de l'allègement de la dette par le FMI. Il y a aussi la Banque mondiale qui l'a fait. Quelles pourraient être les implications, disons, des effets de cet allègement de la dette, particulièrement de la République démocratique du Congo?
Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de faire le point sur ce que est notre économie. Notre économie, avant la pandémie, est une économie incapable d'encaisser un choc exogène comme celui que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. C'est donc une économie sans capacité de résilience, une économie essentiellement extravertie, avec en plus la malgouvernance essentiellement politique. Bien entendu, le plus gros problème que nous avons dans notre pays, c'est le conflit permanent entre les politiques et les activités économiques. Du point de vue de la santé, parce que le choc que nous sommes en train d'encaisser est un choc essentiellement sanitaire, c'est que nous avons un système de santé complètement délabré avec des infrastructures issues de la colonisation, des infrastructures mal maintenues, et nous avons également un plan national de stratégique de développement sanitaire qui montre toutes ses limites parce que simplement il a été constitué sur une base d'une hypocrisie classique. Le personnel est insuffisant et mal réparti sur l'étendue de la République. Et l'autre question que nous sommes en train de regarder ici, c'est que nous sortons d'Ebola. Ebola était une crise essentiellement rurale et essentiellement à connotation nationale. Nous sommes dans une nouvelle crise qui est en fait coronavirus, qui est une crise urbaine et qui a eu un caractère international. Et c'est là que justement la gouvernance devient une véritable question et c'est là que nous constatons que nous sommes fondamentalement surpris. Mais après, ça ne touche pas que le Congo, ça touche le monde entier. Et là, nous avons à côté de nous des gens qui sont censés nous aider, qui eux-mêmes sont débordés. Alors après, quand on vous dit que le FMI a fait un allègement, il y a deux questions qu'on se pose. La première, est-ce que nous étions suffisamment endettés? La réponse est non. Lorsque vous regardez l'endettement de la RDC, vous comparez à des petits pays comme le Burkina Faso, comme le Congo-Brazzaville, ils sont plus endettés que nous. Être plus endetté n'a absolument rien de mal. C'est ce que vous faites de l'endettement qui compte le plus.
L'endettement de la RDC, est autour des 5 milliards et on doit rembourser chaque mois autour de 20 à 25 millions de dollars.
Millions de dollars, c'est exact. Mais est-ce que vous savez que 5 milliards de dollars pour un pays comme la RDC, ce n'est absolument rien divisé par les 80 millions de personnes ou divisé par les 40 millions d'adultes que nous avons? Vous allez vous rendre compte que nous ne sommes pas du tout endettés. Ne pas avoir des moyens financiers pour travailler, ça veut dire ne pas travailler. Et aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes est une situation des dirigeants qui arrivent et qui n'ont pas les moyens financiers pour travailler. Il y a toujours un problème que l'on pose, c'est celui de la malgouvernance. Ça veut dire qu'en fait, on a peur d'avoir beaucoup d'argent entre les mains parce que les gens le détournent. Ça, c'est une autre question et il faut la résoudre. C'est une question à part. Pour fonctionner, il nous faut beaucoup d'argent. Ne pas avoir de l'argent, c'est ne pas avoir la capacité de donner des services publics. La situation d'aujourd'hui, c'est que 80% de notre population vivent dans les milieux ruraux et il n'y a aucun service public. C'est pour ça que chaque fois qu'un groupe rebelle prend un endroit, c'est probablement la première autorité qui s'exerce à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on est toujours inquiet quand on chasse les rebelles, on dit il faut restaurer l'autorité publique. Non, il faut instaurer l'autorité publique. J'insiste encore une fois sur le fait que, bien sûr, ce sera un petit allègement, 20 à 20 millions de dollars, 20 à 25 millions de dollars par mois qui vont rester chez nous, que nous n'allons pas être obligés de payer. Ça peut paraître beaucoup, mais pour la taille de la République démocratique du Congo, l'impact sera très très faible.
Voilà, l'impact sera très très faible. Vous avez dit en commençant que notre économie est extravertie. Qu'est-ce que cela veut dire, Al Kitenge?
Ça veut dire qu'en fait, ridiculement, nous comptons sur des importations, y compris pour des besoins fondamentaux que nous pouvons produire localement. Ça veut dire qu'en fait, pour manger, nous importons du blé de l'extérieur, pour faire notre pain. Nous importons du poisson, nous importons de la viande, nous importons de la tomate, nous importons des choses que nous sommes censés être en mesure de produire ici parce que nous en avons le plus grand potentiel possible. Je répète toujours de manière assez régulière, chaque fois que vous achetez un bien importé, il faut savoir que vous avez payé des salaires à l'extérieur, il faut savoir que vous avez instauré un développement dans le pays qui vous a exporter des produits. Ça sous-entend qu'en fait, à un moment donné, il faudrait qu'on ait une compréhension classique entre le lien qu'il y a entre le fait de dépenser de l'argent à l'extérieur et le fait du développement local. Il est très important que les politiques comprennent qu'il faut changer ces données. Mais il y a des raisons à cela. Notre système financier qui pilote notre système économique est essentiellement entre les mains des étrangers. Et nous n'avons pas ici une main mise sur l'économie congolaise simplement parce qu'elle est entre les mains des étrangers. C'est ce qui fait que, malheureusement, nos hommes politiques n'ont pas la capacité de déterminer les grandes orientations économiques. C'est pour ça que même en période de crise de coronavirus, nous nous retournons vers la communauté indienne, la communauté libanaise en leur disant calmez les prix. Mais en fait, la réalité, c'est que nous n'avons aucun contrôle sur notre économie. C'est pour ça que la Banque centrale n'a pas la capacité de pouvoir donner une orientation comme les autres pays que l'on voit dans le monde, pour deux bonnes raisons. La première, c'est que notre économie est essentiellement dollarisée. La deuxième, c'est que la Banque centrale elle-même n'a pas suffisamment de réserves et l'État congolais n'a pas de réserves pour être en mesure d'agir.
Alors, Al Kitenge, vous voulez dire que cet allègement du FMI et de la Banque mondiale n'aura pas un impact réel sur le social du citoyen congolais?
Je voudrais dire que c'est un geste généreux, mais il n'aura aucun impact réel sur les besoins et les défis de la République démocratique du Congo. Vous avez vous-même sorti le chiffre, on est entre 20 et 25 millions de dollars par mois. Ça ne représente pas grand-chose par rapport aux besoins d'un pays où nous avons 2 345 000 km² et où nous avons 80 millions de personnes qui attendent du service public.
Mais au moins, on peut avoir des fonds comme cet allègement s'étend sur 6 mois. On peut quand même réunir les fonds et les affecter dans le domaine de la santé.
Je suis essentiellement d'accord avec vous. Et pour parler de la santé, je voudrais rappeler ce que je disais tout à l'heure. Nous avons un système sanitaire complètement délabré. Nous n'avons pas d'infrastructures en bon état. Je voudrais juste ici dire que les infrastructures que nous avons ici sont issues de la colonisation. C'est toutes des infrastructures qui ont été faites grâce à l'argent de la loterie en République démocratique du Congo au travers du Fonds de bien-être indigène. Et 60 ans après, nous sommes ridicules, incapables d'avoir maintenu ce que nous avons acquis et incapables de produire des infrastructures modernes. Entre-temps, en termes d'équipement, les technologies ont beaucoup évolué. Nous continuons à fonctionner avec des mécanismes des années 70. Moi, je vois des images dans les médias sociaux et je vois, y compris des autorités de ce pays, et je regarde le type de matériel auquel ces autorités sont soumises pour être traitées, mais qui pose la question de savoir où est-ce que nous sommes aujourd'hui en plein 21e siècle, où les technologies sont censées être les mêmes partout au monde, et vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe. La troisième des choses, et c'est tout aussi une faiblesse, nous n'avons pas ni suffisamment de médecins, ni suffisamment d'infirmiers. Lorsque vous regardez les médecins en République démocratique du Congo, actifs, nous ne dépassons même pas les 20 000. Et lorsque vous regardez la cartographie de ces médecins, ils sont tous en milieu urbain. Heureusement pour nous aujourd'hui, le coronavirus est essentiellement quinois, parce que je me pose la question de savoir si ce coronavirus était rural, comme les autres maladies qui sont arrivées, comment on s'en serait sorti. Et je pense que ça, c'est un moment où nous devons être en mesure de nous questionner sur le fait qu'un pays doit pouvoir se préparer à l'imprévu. On appelle ça un plan stratégique de gestion de catastrophes. Nous n'en avons pas un. Et toute l'impréparation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est la conséquence du simple fait que nous n'avons pas un plan de contingence. Nous ne sommes pas préparés à l'imprévu. On a eu à Goma quand il y a eu les larves. On était complètement désemparés, on ne savait même pas ce qu'il fallait faire. On a vu comment on était désordonné avec Ebola, la catastrophe avec Ebola Business. Et aujourd'hui, on est tout à fait scandalisé par ce qu'on est en train de voir dans les médias sociaux et sur la place publique sur les questions de la gestion de coronavirus. Ça fait plus d'un mois que nous avons eu les premiers cas en République démocratique du Congo. Et jusqu'aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte, la situation ne donne pas l'air d'être suffisamment maîtrisée. Quand le ministre de la Santé communique, quand les gens de la Commission communiquent, et quand vous entendez ce que les malades disent, il y a une vraie panique dans la demeure. Je crois que la question n'est pas nécessairement et essentiellement uniquement monétaire ou financière, elle est organisationnelle et managériale.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Quels sont les effets de l'allègement de la dette de la RDC par le Fonds monétaire international et par la Banque mondiale? Belbich Ngoy, vous êtes à Kolwezi. Bonjour.
Bonjour, bonjour, Jordi.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, merci pour la parole. Je salue d'abord la mesure qui est salvatrice du grand bailleur international que l'FMI pour cet allègement de la dette sur les pays africains en général et pour la RDC en particulier. En ce qui concerne aujourd'hui les retombées de cette mesure sur l'économie de la RDC, et en particulier sur la vie des citoyens congolais, il n'y aura aucun changement. Et la population congolaise sera toujours souffrante, car les autorités politico-administratives sont des mercantilistes et des maîtres poids qui visent justement leurs intérêts égoïstes. Ici, on aura le problème d'hommes au niveau endogène et exogène de notre pays. Pour la direction qui doit suivre cet argent, car la meilleure solution, que devraient faire les autorités d'améliorer les conditions de vie et de la population en produisant ou en achetant les biens de première nécessité pour faire face à cette pandémie du coronavirus.
Bien, merci Belbiche. Paul-Emmanuel, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Paul-Emmanuel de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Oui, quelle est votre question rapidement?
Mais avant tout d'abord de poser la question, je voudrais faire une petite analyse par rapport à l'allègement et ses implications sur l'économie congolaise. Il faut dire que notre économie, c'est une économie extravertie, bien évidemment, mais au préalable, je voudrais signaler que les effets que pourrait avoir effectivement cet allègement ou ce soulagement financier, c'est-à-dire que à ces niveaux, la République démocratique du Congo va certainement se retrouver face à un budget qui sera respiré. Et donc, à ce niveau-là, nous allons mettre en place des structures ou poser des actions qui vont dans le sens de développement effectivement de notre infrastructures de notre pays.
Alors Paul, rapidement, quelle est la question? Parce que les autres attendent, vous êtes nombreux à vouloir participer à cette émission. Allez-y rapidement pour permettre aux autres également d'intervenir.
Ma question c'est basé sur l'implication que pourrait certainement avoir cet allègement financier dans notre économie. Alors d'accord. Là, je m'adresse à Alki Tengue qui a essayé quand même d'une certaine manière d'essayer d'expliquer cela, mais je voudrais bien sûr comprendre de manière concrète, est-ce que effectivement l'allègement que les Congo est en train d'envisager, l'allègement que les FMI nous a soumis, va certainement favoriser dans une certaine mesure le développement des infrastructures dans notre pays.
Merci à Paul-Emmanuel. Trésor Junior, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour au Capi Service pour cette thématique très importante. En fait, je salue d'abord cette mesure prise concernant l'allègement de nos dettes. En fait, c'est une bonne chose, mais j'aimerais savoir, est-ce que la République démocratique du Congo était-elle prête à rembourser cet argent? Oui, si elle était prête, n'est-ce pas, parce qu'il y a eu cette mesure de grâce, est-ce que cet argent-là ne peut pas servir pour que nous puissions, en fait, organiser certaines choses, notamment la vie sociale, notamment la majoration des salaires pour les fonctionnaires et consorts. En tout cas, je me limite à ce niveau, mais c'est quand même une bonne chose. Mais que le gouvernement congolais prenne quand même conscience s'ils avaient déjà cet argent-là pour rembourser, qu'ils en fassent autre chose dans le cadre de subvenir aux besoins de la population congolaise.
Merci Trésor Junior de Kinshasa. Jean, vous êtes à Beni. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gobi.
Quelle est votre question, Jean?
Donc, ma question est la suivante, M. Glody. C'est comme si notre gouvernement, ici, nous sommes très confinés. Tout ce que la radio Capi est en train de faire et tout ce que les autorités sont en train de faire, mais chez nous, il n'y a aucune chose qui se réalise à ce projet-là.
Aucune chose comme quoi, par exemple?
Par exemple, on préparait déjà à faire l'épidémie d'Ebola. Et vous avez vu que non, c'est tout ce qu'on est en train de faire. Et on a augmenté encore l'épidémie. Même quand je vous parle ici, c'est trop dangereux ici. Nous, même pour se promener.
D'accord. Merci. Jérémy Mwamba de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, M. Jordi. Bonjour, bonjour également à M. Al Kitenge, notre invité.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, mais aujourd'hui, permettez-moi un peu que je parle un peu de quelque chose. Le constat qui est fait, bien sûr, l'allègement, un geste sanitaire, bien sûr. Mais la question, quand vous dites que notre pays est aligné parmi les pays les plus pauvres, tout ça, mais c'était vraiment un contraste par rapport à ce que nous représentons. Nous ne pouvions pas être vendus à l'image d'un parent pauvre. Notre pays est riche. Il suffit, monsieur Jordi, je vous mets un peu devant un fait accompli. Retracer un peu, répertorier un peu ce que notre pays représente, sa production, au regard de tout ce qu'il représente. C'est vraiment grand chose. Notre pays ne pouvait pas être aligné parmi ceux-là. Même pendant à cette période de cette pandémie, il suffit que notre pays s'organise à l'interne. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire face à cette pandémie sur tous les plans. Ce n'est pas l'hydro, donc c'est-à-dire les produits là qui pouvaient manquer à donner à tout un chacun, même les masques. Non, notre pays est suffisamment outillé pour pallier tous ces problèmes. Regardez maintenant, quand vous retracez un peu, voir combien de temps nous avons eu à rencontrer nos autorités qui nous ont dirigés. Retracez un peu. Je voyais quelque part dans les réseaux sociaux, vous retracez, voir combien d'argent a été détourné. Et si vous faites la sommation, c'est pratiquement tout un budget de notre pays, plus de 4 milliards. Est-ce que maintenant, là, c'est le moment de montrer l'amour et faire sortir des dons là que vous avez eu, que les gens ont eu amassé pour faire face à cette pandémie? Je pense que ça, nous en interpellons à tous nos politiciens et à toutes nos autorités qui ont eu à gouverner durant des décennies. C'est le moment de mettre la main à la pâte, ne pas laisser seule la charge au gouvernement. Parce que quand vous retracez tout ce qu'il y a eu, on a dilapidé beaucoup d'argent de notre
voilà.
pays. C'est le moment de mettre,
fin à la corruption. Merci, Jérémy. Merci, Jérémy. Monsieur Al Kitenge, vous avez la parole.
Merci beaucoup. J'aime beaucoup entendre mes compatriotes et écouter leur niveau de passion lorsqu'ils parlent de notre pays. Et je voudrais revenir ici à la question fondamentale qui est celle de l'allègement de la dette par le Fonds monétaire international et éventuellement la Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds. Mmh. Je pense qu'il faut se rendre compte de deux choses importantes. La première, c'est que les bailleurs de fonds se sont rendus compte qu'avec le choc économique que nous sommes en train de connaître, notre pays va avoir des réductions drastiques de ses propres revenus. Par exemple, toutes nos devises viennent de nos exportations, essentiellement minières et peut-être un petit peu forestières. Et donc, nos revenus, nous-mêmes, vont déjà être faibles. Nous allons être essentiellement en incapacité de les payer. Et donc, ce n'est qu'une question de bonne moralité que de se rendre compte que je ne vais pas demander à quelqu'un qui n'a pas l'argent de pouvoir me payer. On va décaler les échéances. C'est ce qu'on observe également dans les banques locales et dans les banques internationales. En fait, le créancier dit « vous allez payer, mais un peu plus tard ». Simplement parce que vous n'avez pas les moyens de payer à cause de l'état réel actuel de l'économie. Et donc, l'argent dont vous parlez, il ne va pas rester entre les mains de la RDC. Nous ne l'avons pas parce que nos revenus à nous, en devises, viennent essentiellement de nos exportations et nous n'exportons rien d'autre que les matières premières, à savoir les matières minières et essentiellement un peu de produits forestiers. Et donc, nous n'allons pas avoir du cash de plus. Si nous n'avons pas du cash de plus, donc nous n'allons pas l'affecter à quoi que ce soit, que l'on soit de bonne ou de mauvaise foi. Et ici, je voudrais insister sur quelque chose qui apparaît très clairement aujourd'hui plus que jamais. Notre économie est essentiellement informelle, à plus de 90%. La conséquence est très simple, il n'y a pas de protection sociale pour les citoyens et il n'y a pas de filets sociaux. L'État n'a pas entre ses mains les moyens que les citoyens lui ont donnés pour être en mesure d'intervenir en cas
d'une catastrophe comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous avons à la fois et les enfants pauvres et les parents pauvres. Et ça, ça pose toute la question de la nouvelle façon de nous concevoir ensemble. Comment voulons-nous vivre à partir de la fin de cette crise? Comment nous préparons-nous à créer une autre société que celle que nous avons, qui nous a montré clairement que l'impréparation n'est pas une solution? Et je le dis plusieurs fois, le bon résultat durable n'est que le fait d'une planification. Et un pays qui n'a pas de planification ne peut pas marcher. Regardez une deuxième chose, et elle est tout aussi importante. Mmh. C'est ce qu'on appelle le mapping du coronavirus. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, et vous vous rendez bien compte que plus de 60% des cas de personnes touchées par le coronavirus, c'est des personnes de la classe moyenne et haute. Et c'est pour ça d'ailleurs que Gombe à lui tout seul régorge 60% des cas isolés. Et vous vous rendez bien compte que c'est une insulte supplémentaire à la manière dont nous avons vécu. En fait, pendant 60 ans, nous avons reproduit le comportement des Belges sur nous, nous l'avons reproduit sur nos propres frères. Et aujourd'hui, le coronavirus nous rappelle justement qu'en frappant au haut de la société, il nous dit que vous vivez en tournant le dos à la population. Mais je ne voudrais pas m'attarder sur ça. Paul Emmanuel nous demande si c'est l'argent que l'on va laisser va éventuellement nous amener le développement. La réponse est non, ça ne nous amènera aucun développement, ni des infrastructures, ni des systèmes. Donc on ne peut pas accepter ce qu'on n'a pas. C'est l'une des choses que je voudrais être en mesure de souligner de manière assez claire. Par contre, Jérémy revient sur la problématique réelle de ce pays. Nous sommes un pays malheureusement très pauvre, c'est ça la réalité au quotidien, même si nous avons des potentiels, mais les potentiels ne se mangent pas et ne se consomment pas. Ça veut dire qu'en réalité, au-delà de tout l'amour propre que nous pouvons avoir, nous sommes un pays malheureusement très pauvre. Est-ce que nous avons la capacité de faire les choses différemment? Mais bien sûr, mais si nous continuons à faire les choses de la même manière, on aura toujours les mêmes résultats, même si on change les hommes. Et aujourd'hui, changer de manière de faire, c'est moderniser la gestion. C'est aller dans la planification stratégique. Quand je regarde ce que le chef de l'État essaie de mettre en place comme infrastructure de gestion au niveau de son cabinet, et s'il peut répercuter cela au niveau du gouvernement, nous avons la capacité de commencer une démarche différente. Mais aujourd'hui, je voudrais dire deux choses importantes. On doit innover. La première innovation doit être dans le secteur minier où nous sommes pratiquement des leaders. Au lieu de prendre le bas de l'échelle, nous devons prendre le haut de l'échelle.
Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement dans le domaine minier, Al-Kitenge?
Au lieu d'exporter du cuivre ou des produits de cuivre et de cobalt, nous devrions aller dans la transformation des produits finaux. Je voudrais juste insister sur le fait qu'il est ridicule d'être un pays qui produit le cuivre et qui importe du Sénégal les câbles électriques. Ça, ce n'est qu'une façon d'expliquer. Mmh. Deuxième chose, ce n'est pas raisonnable de notre part d'avoir la forêt que nous avons et d'être incapable de produire des produits à base de bois chez nous et d'importer de la Chine tous les meubles de nos ministres, tous les meubles de nos autorités, tous les bancs dans nos écoles. Nous devrions être ceux qui exportent. Et pour ça, il faut ici mettre en place une industrie du bois. Mais aucune industrie au monde ne peut fonctionner si nous n'avons pas de l'énergie. Et Dieu merci, nous sommes le pays le plus doté de potentiel énergétique par tête d'habitants. Nous ne sommes comparables avec personne sur la planète Terre. Et donc, moi je dis tout le temps, on s'est trompé d'approche. Notre approche devra être énergétique qui va engendrer le reste et pas l'inverse. Et là-dessus, encore une fois, l'erreur de nos hommes politiques, c'est de penser que le développement de ce pays était une question essentiellement politique. Non, c'est une question d'intelligence collective. Cette crise devrait nous permettre non pas de discuter du fait que le FMI nous a allégé ou a reculé nos échéances de paiement, ça devrait être le moment de réfléchir sur comment stratégiquement on change ce pays pour être en mesure de donner du service public aux citoyens où qu'ils soient. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où, heureusement, le coronavirus est urbain, parce que s'il était rural, nous aurions été dans une catastrophe beaucoup plus grave.
Bien, nous allons faire un tour à Butembo où certaines mesures pour limiter la propagation du coronavirus créent un manque à gagner dans les activités économiques. Les effets se font sentir dans la vie socio-économique. Alors, Sadiki Aboubakar nous propose ce reportage depuis la ville commerciale de Butembo.
Dans la ville de Butembo, c'est la mesure d'isolement prise par le gouvernement provincial du Nord Kivu qui impacte visiblement dans la survie quotidienne de la population. Cette mesure suspendant le trafic des personnes pour une durée de 2 semaines entre les villes de Beni, Butembo et Goma a mis plusieurs agences de voyage en chômage. Désiré Kitamboulé, chef d'agence Kivu Express, exprime sa peine.
Auparavant, on faisait au moins 3-4 rotations par semaine, mais pour le moment, nous sommes bloqués, nous sommes ici à l'agence, on ne travaille plus. Suite à cette situation, puisque bon, nous sommes une agence de transport de personnes, mais pour le moment, les personnes ne voyagent plus, puisqu'on ne travaille pas. Bon, automatiquement, il n'y a pas quelque chose qui entre dans notre caisse. Il y a vraiment un manque à gagner. Nous laissons quelqu'un qui gère les affaires courantes. Les autres personnels sont à la maison et ne travaillent plus.
Vous allez les gérer comment à la fin du mois?
À la fin du mois, bon, je ne sais pas. Bon, on cherchera quand même quelque chose pour les savons, permettez-moi le terme, pour les savons.
Même son des cloches du côté de l'agence Service Kalamu. Son président, Mouindo Mungulu Mudjimi, indique que certains de ses membres ne parviennent même plus à prendre correctement leur famille en charge.
En tout cas, actuellement, c'est grave. Au lieu de faire au moins 10 jours, les premiers jours, c'était quand même passable, mais vraiment, c'est terrible. On manque quoi garder les bombers, même les chauffeurs, parce qu'il n'y a pas de trafic de personnes et nous n'avons pas de camions pour transporter des marchandises. C'est pour cela que vraiment pour nous c'est terrible.
Est-ce que ça vous permet de bien prendre la charge de vos familles comme d'habitude?
En tout cas actuellement non, c'est terrible. On vit par la grâce parce que vraiment c'est terrible. Quand vous arrivez à nos bureaux, les chauffeurs sont à chômage, tout le monde, il n'y a pas des activités. C'est pour cela que nous implorons encore la grâce vraiment que le gouvernement puisse nous aider, qu'on puisse prendre d'autres mesures sanitaires que des nous interdit de voyager.
Pour sa part, le président des importateurs pétroliers de Butembo indique que la crise liée à la pandémie du coronavirus leur cause un manque à gagner énorme dans leurs activités. Jérôme Bakonama Adigerison affirme qu'au-delà d'un ralentissement des activités économiques, les services de l'État continuent à leur faire payer des taxes.
Quand les gens ne se déplacent pas, le bon nombre de véhicules sont stationnés, ils ne savent plus se déplacer. Donc, il y a un manque à gagner, c'est-à-dire ce qu'on vendait par l'État, on ne sait plus le vendre maintenant, puisque nous continuons à garder le même personnel, nous continuons à payer le même taxe qu'avant, dès lors qu'on ne sait pas vendre la quantité qu'on vendait avant. Ça, c'est une difficulté. Deuxième chose, nous continuons à payer la même taxe à l'importation, même quand on est en train de vendre. Toutes les taxes, les taxateurs sont en train de défiler à nos portes pour qu'on paye différentes taxes et on est en train de le faire. Et donc, nous, comme pétroliers, on n'est pas exonérés à aucune taxe jusque-là.
Il plaide ainsi pour la suspension de la taxe fonaire dans l'importation des produits pétroliers pendant 3 mois, ce qui leur permettra également de réduire le prix du carburant au bénéfice de la population.
Moi ici, je vois le Foner, que nous payons depuis longtemps et qui, jusque-là, nous ne voyons pas les retombées. Et si on nous l'enlevait cela, ça peut alléger puisque ça prend une grosse somme sur le montant que nous payons à l'importation. Toutes les autres petites taxes, bon, on peut les laisser, il n'y a pas de souci. Mais au moins Foner, pour 3 mois, et surtout que les retombées, nous ne les voyons pas pour être sincères. $100 au mètre cube, c'est quand même beaucoup et nous le payons depuis toujours et nous ne voyons pas. Bon, nos routes sont toujours à un état délabré comme vous connaissez. Bon. Et voilà, je demande aux autorités s'ils peuvent nous assister dans ce sens-là pour que nous qui sommes endeuillés, Tembo Beni, pas de tuerie de tout genre, et si les autorités pouvaient passer à nous pendant cette période de nous la lever 3 mois, et sera une bonne chose pour la population puisque les litres sera à un prix vraiment réduit pour pouvoir pallier à cette pandémie qui est en train de nous endeuiller.
Butembo, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Merci Sadiki et Aboubakar pour ce reportage depuis Butembo. Alki Tenge, vous êtes analyste économique. Nous parlons des effets de l'allègement de la dette de la RDC par le FMI et par la Banque mondiale. Alors vous avez suivi à Butembo les activités, cette ville commerciale, les activités tournent au ralenti. Entre temps, il y a des tracasseries, les taxes, les services de l'État passent toujours pour collecter les taxes. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce qui se passe là-bas?
J'ai un cœur qui saigne quand j'entends mes compatriotes de Butembo et de Beni parler. En fait, ils sont en train de dire que s'ils ne meurent pas de maladie, ils vont mourir de faim. C'est ce que moi j'ai entendu et je crois que n'importe quel citoyen normal devrait être en mesure d'entendre cela. Et c'est un cri d'alarme à l'endroit des opérateurs politiques qui nous écoutent afin qu'ils se rendent compte que, très malheureusement, ils ne sont pas en état de pouvoir donner la moindre réponse à ce genre de personnes, si ce n'est des petites solutions. Aussi petites soient-elles, elles pourront être bonnes. Le manque à gagner, mais bien entendu, le manque à gagner est lié au simple fait que notre économie est essentiellement informelle et elle n'est pas technologiquement avancée. Les deux facteurs qui ont été cités ici, le tourisme et la consommation des produits pétroliers, mais ça c'est un dénominateur commun sur le plan international. Le tourisme est un des secteurs qui a été le plus frappé dans la mesure où les gens sont obligés de rester chez eux, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas aller boire en boîte, ils ne peuvent pas aller au restaurant, ils ne peuvent pas voyager. Et donc du coup, toutes les personnes qui travaillent sur la chaîne du tourisme sont totalement frappées et donc très malheureusement, ils n'auront pas de revenus et donc nous avons là le risque d'avoir beaucoup de sociétés qui vont tomber en faillite Et bien entendu, quand il n'y a pas de mobilité, la consommation en produits pétroliers baisse. C'est donc aussi une conséquence logique de la crise telle qu'elle est là pour l'instant. Et comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas, à cause du caractère informel de l'économie congolaise, nous n'avons pas de filets sociaux. Et donc l'État n'est pas en situation de pouvoir donner les moyens aujourd'hui pour être en mesure de relancer cette économie. Donc la question de la résilience de notre économie est liée dans sa structure. Nous avons un État qui tourne le dos aux citoyens et les opérateurs économiques qui tournent le dos à l'État. Et maintenant, en situation de difficulté, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de contrat et il n'y a pas de filet. Et donc, moi, je dis encore une fois, ce qui est en train de se passer devrait nous donner des leçons pour qu'on soit en mesure d'évoluer. Mais j'ai bien peur qu'il n'y ait pas beaucoup de solutions. Ça se peut qu'aujourd'hui, on allège un petit peu la taxe foncière, puisque vous en parlez, tout le scandale qui vient autour en ce moment. Les gens en décrit une inutilité parce que les gens ne voient même pas de résultats. Oui. Et ça, ça pose toute la question au-delà de la gouvernance. Vous savez, lorsque vous êtes à Kinshasa et lorsque vous êtes à Beni, à Butembo, l'État est très distant. Et comme je le disais tout à l'heure, il est important que nous respections la forme de cet État. L'État congolais est un État décentralisé. Il est important que même et de développement pour des solutions locales. Il est inutile de continuer à capter de l'argent comme celui que l'on capte dans le FONER et de le transférer à Kinshasa alors que ceux qui le payent ne bénéficient même pas des résultats. Ça démotive. L'idée pouvait être bonne, même si moi je suis tout à fait opposé au FONER. Je pense qu'on devrait avoir un fonds de développement routier parce qu'on entretient ce qu'on a. On n'a pas d'infrastructure routière, alors je ne vois pas ce qu'on peut entretenir. Et je pense simplement que nous devons être en mesure de pouvoir donner des justifications aux citoyens. La redevabilité est très importante.
Bien.
Et je pense simplement que ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans cet espace géographique, nous avons une économie de la guerre. Et tout le monde a vu la limite de cette économie de la guerre et le fait que paupériser les citoyens et en cas de choc exogène, c'est la catastrophe la plus totale. Les gens n'ont pas la capacité de vivre parce que au quotidien, ils essaient de gérer leur stress en essayant de récolter quelque chose dans la communauté. Et pour ça, il faut remplacer l'économie de la guerre par ce que moi j'appelle une guerre économique. Si nous étions un pays concentré et sérieux, avec ce que nous sommes en train de connaître comme situation, avec toutes les difficultés que l'on a connues à l'Est, aussi bien des difficultés de guerre que des difficultés de maladie, je parle de Ebola ici, nous aurions été en mesure de consacrer peut-être 20 à 25% du budget de l'État sur le corridor Est, pour que nous soyons en mesure d'y donner des réponses économiques, pour
bien
être en mesure de chasser l'économie de la guerre et donc être en mesure d'arrêter la guerre.
Merci Al Kitenge. Merci Al Kitenge, on aura l'occasion de revenir là-dessus prochainement. Je rappelle que vous êtes analyste économique. Merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Radio Okapi.
À Mbandaka.
Okapi.
Sur 103 FM.
Quels sont les effets de l'allègement de la dette de la RDC par le FMI, la Banque mondiale? Alors, nous avons en ligne le sénateur Matata Ponyo Mapon. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes Premier ministre honoraire. Alors, la première question est de savoir quelles pourraient être les implications, les effets de cet allègement de la dette de la RDC sur l'économie du pays.
Bon, d'abord, comme je l'ai dit il y a quelques temps, échangea avec un journaliste de votre chaîne.
Avec Billy, oui.
Oui, c'est que en fait, l'annulation ou le report du paiement de la dette exerce une pression moins lente, moins forte sur les dépenses du budget de l'État, dans la mesure où ça permet de diminuer le montant qui doit être payé mensuellement. Et, et comme je vous l'avais dit, est-ce que l'État paye aux environs de 20 millions de dollars par mois, et il y a un report de ces services de la dette ou une annulation de la dette globale aura donc un impact direct, c'est pas un impact indirect, c'est un impact direct sur les dépenses de l'État, et ce qui pourrait permettre de dégager des ressources supplémentaires pouvant être affectées à d'autres activités, notamment les activités sociales comme l'éducation, comme la santé ou bien d'autres choses. Voilà. Donc, c'est ça, du point de vue historique, l'impact direct d'un report ou d'une annulation de la dette extérieure.
Bien. Et pour le cas de notre pays, quels sont les secteurs dans lesquels ces fonds pourraient être affectés de manière prioritaire?
Bon, d'abord, ce qu'il faut comprendre ici, parce que techniquement, il faut comprendre que la RDC ayant déjà atteint le point de décision en 2003 et le point d'achèvement en 2010, quand j'étais ministre des Finances, la RDC a vu une annulation très significative de sa dette extérieure, et notamment au niveau du club de Paris, où se trouve essentiellement donc le bilatéraux. Aujourd'hui, il faut dire que la dette de la RDC se trouve principalement localisée au niveau de multilatéraux, et d'une manière générale la dette de ce type d'institution qui généralement, comme vous le savez, c'est des crédits très très concessionnels, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d'autres institutions similaires. Et donc, ce type d'endettement généralement n'est pas éligible à l'annulation, en tout cas jusque là, à moins que les règles soient changées. Et donc, il faut dire que d'une manière générale, la RDC ne devra pas bénéficier de manière tout à fait significative des allègements qui pourraient être donnés de manière générale, ayant accédé donc au point de décision et au point d'achèvement. Donc, mais là où je pense que la RDC pourra être plus ou moins concernée, et ça l'est déjà, comme vous le savez, le Fonds monétaire international a accordé un report de plus ou moins 6 mois,
oui,
des paiements du service de la dette, et là la République démocratique du Congo est automatiquement éligible, parce que comme je vous l'ai dit, nous arrivons donc à payer mensuellement près de 20 millions de dollars,
20 à 25 millions de dollars, oui,
oui. Alors, près de 20 millions, parce que le service annuel tourne aux environs de 254 millions de dollars.
Mais à ce niveau, il se pose un problème de gouvernance. Qu'est faire pour arriver à canaliser correctement les fonds afin qu'ils échappent au détournement souvent décrié en RDC?
Bon, je pense, monsieur le journaliste, la question que vous évoquez est une question de fond. Et à mon avis, elle se trouve même au centre du débat des questions de rationnement de la dette, des questions de l'effacement de la dette, parce que Si aujourd'hui on efface votre dette et que demain vous vous réendettez encore pour être surendetté, et ben finalement on se pose la question, quel est le bien fondé d'un tel allègement ou d'une telle annulation de la dette? Je pense que le problème des fonds demeure les questions des gouvernances que vous avez évoquées, mais aussi un problème de leadership. Vous savez, depuis un certain temps, je prêche sur le leadership et la gouvernance, que je considère comme le binôme clé pour, déclencher le développement des pays africains. Et ça a été le détonateur des pays européens, des économies asiatiques. C'est aussi aujourd'hui le détonateur du progrès de la Chine. Il ne faut pas l'oublier.
Oui.
Leadership de qualité, et c'est une gouvernance de qualité. Donc, à mon avis, annuler une dette, c'est une chose. Reporter l'échéancier du paiement, c'est une chose. Mais la plus grande question, c'est la gouvernance, la bonne gouvernance. Parce que, écoutez, vous pouvez annuler la dette et tout ce qui devait servir au paiement n'est pas bien utilisé. Mais alors là, on n'aura rien fait. Vous pouvez annuler une dette et il y a un réendettement qui se fait,
oui,
pour atteindre le même niveau qu'il y a avant l'annulation ou avant le report. Donc vous
n'avez rien fait. Voilà. On va accueillir des auditeurs. James Wabelo de Lubumbashi et Kachai de Kanyoka. James, bonjour. James, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi. Bonjour. Il n'est plus là. Voilà, il est là. James, quelle est la question que vous adressez au sénateur Matata Ponyo?
Oui, j'ai salue d'abord la décision du FMI d'alléger la dette des pays, dont celle de la RDC. Ce qui va des effets de cet allègement, je crois que cela pourra avoir des effets bénéfiques sur l'économie de la RDC, que si ce fonds qui devrait être remboursé au FMI sera cette fois-ci décaissé de la caisse publique pour être alloué à la lutte contre la pandémie du COVID-19 et à l'affaire des vivres pour la survie des citoyens congolais. Sinon, s'il va profiter au remplissage des poches de ceux qui détiennent la clé des données publiques, cela n'aura que des effets négatifs. La question que je voudrais poser à l'invité est de savoir, quand on parle d'allègement, il n'égale pas une suppression. C'est-à-dire que la dette est juste réduite s'il en est ainsi. Peut-il nous dire de combien de pourcents cette dette a été réduite par le FMI? Je dis et je vous remercie.
Bien, Kachai de Kanyoka, bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis Daniel Kachama et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Je salue aussi l'allègement de la dette de la RDC par le Fonds monétaire international. Et je salue aussi l'intelligence et la sagesse de l'honorable Matata Mponyo lorsqu'il était aux affaires. C'est à cause de lui que nous avons connu aussi une croissance économique par rapport à la gestion des finances publiques. Il a instauré le système de bancarisation des salaires des fonctionnaires de l'État.
Alors, quelle est la question? Vous n'avez pas beaucoup de temps parce que les autres attendent.
Merci beaucoup, monsieur Jody. Monsieur Jody, vous savez, à l'époque, on était dans l'initiative des pays pauvres très endettés. Avec le temps, nous sommes montés au programme d'ajustement structurel. Et quand les institutions internationales de Bretton Woods avaient constaté que les pays pauvres, parmi lesquels la RDC, ne parvenait pas à rembourser la dette, on a institué le système de la bonne gouvernance, qui souffre jusqu'alors parce que dans nos pays, nous n'avons pas de gestionnaires responsables et vertueux. Ce sont des gestionnaires qui commettent des actes de prédation, de prévarication et de la malversation financière. Maintenant qu'en 2012, monsieur Jody, vous savez que le FMI avait coupé sa coopération financière avec la coopération monétaire avec la RDC à cause de la mauvaise gestion des finances publiques.
Voilà, Kachai. Maintenant, alors, quelle est la question? Passez à la question rapidement.
Oui, maintenant, monsieur Jody,
oui.
La RDC aussi, pendant ces temps ici de coronavirus, a allégé certaines taxes, certains impôts. Il a demandé à ce que les gens ne puissent pas payer normalement comme ils payaient pendant ces temps ici critiques de coronavirus.
Oui.
Je voulais un peu demander à monsieur, à l'honorable sénateur, si les fonds collectés par la RDC pendant ne sont pas canalisés dans le secteur rentable et moins coûteux, cela ne serait pas une peine perdue. De deux, maintenant qu'on ne paye pas les impôts comme on payait auparavant, où est-ce que la RDC pourrait trouver encore des fonds pour pouvoir rembourser au terme de 6 mois la dette du FMI?
Merci. D'accord, merci. Platini Mbombo de Mbandaka, bonjour.
Je dis bonjour, je salue le professeur Matata Mponyo.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup, Jody, et je crois que merci pour l'invitation. Et je sais que on dit en français, vaut mieux un que deux tiroirs. C'est aussi une bonne initiative. Félicitations d'abord pour le FMI. Mais je dis, je crois que cet argent arrive au Congo. Pour moi, personnellement, j'estime qu'il y a aussi une certaine minimisation dans tous les pays comme le RD Congo. Parce que, comme vous le savez très bien, nous sommes dans des pays vraiment riches, mais très mal gérés. Et je ne sais pas si cet argent, bien qu'il est arrivé, parce que nous sommes dans le période de COVID-19, bien que ça, mais c'est aussi remboursable. Je crois que ma question va adresser aux invités qui sont avec vous, qui peuvent nous répondre cet argent. Je ne sais pas si cet argent arrive justement dans quel secteur, parce qu'il y a beaucoup de secteurs. Et cet argent-là, est-ce qu'il y aura aussi des suivis par rapport à ça?
On a allégé tout simplement, c'est un allègement de la dette, voilà.
Oui.
Et on fera des dons, l'FMI fera des dons pour nous permettre de rembourser la dette.
Oui, bien que ça, je dis, je crois que vous avez bien dit, Mais la dette, la plus fiable en mesure de rembourser ça, c'est le RD Congo. Et aussi, ce que moi je voudrais avoir un peu l'idée, parce que le président lui-même a pris acte de faire ce qu'on appelle, il a signé ce qu'on appelle pour rembourser le pouvoir, c'est la collecte de ce qu'on appelle le fonds national pour la solidarité, tout ça.
Après, oui. Il a créé le fonds de solidarité nationale pour collecter les fonds afin de. Pour financer la riposte.
Le président a dit.
Oui.
Ça sera comment? Parce qu'aujourd'hui, là, ça sera financé par quel mécanisme? Ça sera financé l'argent à main en main? Ou bien on va acheter des motos, des appareils par-ci par-là?
D'accord. Merci. Merci beaucoup, Platini de Mbandaka. Monsieur le sénateur Matata Ponyo, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et d'abord, en ce qui concerne la première question de l'auditeur, je crois, de Lumbashi. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il ne s'agit pas d'une annulation. Le Fonds monétaire a fait donc un report de paiement des services de la dette, à ma connaissance, pour une période initiale de 6 mois. Et donc, la dette du FMI n'est pas annulée. Et donc, c'est plutôt un report, donc un moratoire. Donc, on suspend pendant une certaine période le non-paiement, et quitte à ce que ces ressources-là puissent être affectées à autre chose. Mais comme je l'ai dit, en principe, s'il y a un programme, parce que bon, vous savez, ces allègements sont faits, nous sommes dans une période un peu plus difficile aujourd'hui, mais dans le cadre, par exemple, du point d'achèvement, une fois que vous avez vous bénéficiez de ces allègements, il y a un processus des signatures, des accords, et au travers lequel l'État prend l'engagement de pouvoir utiliser ces ressources dégagées donc de l'annulation de la dette au profit des secteurs sociaux. Aujourd'hui, par exemple, il y a les CDD avec le gouvernement français. Le gouvernement français est dans le cadre donc, de cet allègement, a donc signé des accords avec le gouvernement congolais pour que ces ressources soient utilisées et donc dans le secteur social. Et ici, en tout cas, je crois que le secteur de la santé et le secteur de l'éducation, comme je l'ai dit l'autre fois, constituent des secteurs privilégiés. Et d'ailleurs, comme vous le savez, l'éducation, c'est même la fondation du progrès de l'humanité. S'il y a le meilleur combat qui peut être fait aujourd'hui à coronavirus, vous le savez, c'est à travers le vaccin, c'est à travers le médicament qui doit être inventé et produit, et ce n'est que par le produit de la recherche et du développement qui procède, comme vous le savez, de l'éducation.
Alors, monsieur Matata Ponyo, par rapport à ce moratoire sur la dette des pays pauvres, cela veut dire qu'on suspend le paiement, mais on suspend peut-être les intérêts, mais la dette reste?
Non, la dette reste. C'est ce que je vous ai dit d'entrée de jeu, c'est que généralement la dette des multilatéraux, hein, des multilatéraux, donc le FMI, la Banque mondiale, la BAD et des institutions similaires, comme en fait ce sont des institutions financières et de développement et qui prêtent de l'argent au taux concessionnel, vous comprenez les taux concessionnels, ce sont pas les taux du marché, et ils font même des dons. Dans les cas d'espèces, des fonds qui sont donnés, il y a des dons. Et la BAD, la Banque mondiale, ils donnent non seulement des prêts concessionnels, mais des dons. C'est-à-dire ce sont des ressources qui ne sont pas remboursables. Et donc, je ne pense pas que le report signifie l'annulation.
Voilà, il y a une question. Il y a des allègements qui sont accordés aux pays africains, parmi lesquels la RDC. Mais entre-temps, au niveau national, la RDC, le pays a également accordé des exonérations à certaines entreprises, donc les régies financières tournent au ralenti actuellement. Comment est-ce qu'on pourra même mobiliser ces fonds-là qui vont nous permettre ces fonds-là qui seront affectés dans le secteur de la santé?
Mais justement, j'étais en train de répondre à ce type de questions. En fait, en effet, c'est comme je l'avais dit, vous avez vu que j'avais fait une analyse concernant l'impact socio-économique des coronavirus sur l'économie congolaise, et j'avais proposé une batterie de mesures pour pouvoir alléger le choc ponctuel, le choc conjoncturel sur le secteur social et le secteur économique. Effectivement, la batterie des mesures que le gouvernement a prises a notamment pour conséquence de pouvoir exercer un effet négatif sur la hauteur des recettes fiscales qui rentrent dans les comptes généraux du Trésor. Mmh. D'où la nécessité de prendre des mesures qui sont de nature à pouvoir accroître le taux de perception de recettes fiscales. Et l'une des pistes, c'est notamment la lutte contre la fraude et la corruption. Pour votre information, le taux de pression fiscale moyen de l'Afrique se situe au niveau de 23-24%. Les taux de pression fiscale des pays occidentaux est au-delà de 40%. Et les taux de pression fiscale en ce moment précis de la République démocratique du Congo et tourne aux environs de 12-13%, si pas en dessous des 10%. Cela veut dire, en d'autres termes, que l'évasion fiscale est tout à fait élevée. Et l'une des voies par lesquelles on peut amortir ces champs, c'est de relever les taux de mobilisation des recettes fiscales, c'est-à-dire une lutte tout à limite contre la fraude et la corruption. La seconde voie, c'est de pouvoir obtenir des financements tout à fait spéciaux auprès des institutions.
Alors,
monsieur
le sénateur Matata Ponyo, nous allons encore vous garder pendant quelques temps, le temps de suivre quelques moments, le temps de suivre les informations, et nous allons revenir à vous pour terminer cette partie.
Tenons à rassurer nos compatriotes de garder le calme en respectant les mesures d'hygiène suivantes. C'est laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche en cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude ou avec un mouchoir à jeter immédiatement après utilisation.
Ceci est un message du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo.
Merci de votre fidélité à Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Quels sont les effets de l'allègement de la dette de la RDC par le FMI? Vous avez suivi dernièrement, nous avons annoncé que le Fonds monétaire international a allégé la dette des 25 pays les plus pauvres et les plus vulnérables dans le monde, parmi lesquels la RDC. Ces pays vont recevoir des dons pour couvrir leurs obligations envers cette institution pour une phase initiale des 6 mois, ce qui leur permettra de consacrer une grande partie de leurs faibles ressources financières aux soins médicaux et autres efforts de lutte contre la pandémie de COVID-19. Que peuvent être les effets de cet allègement de la dette sur l'économie du pays et particulièrement dans la vie des citoyens congolais? Nous avons également annoncé que le G20 s'engage sur un moratoire sur la dette des pays pauvres. À partir du 1er mai 2020, tous les intérêts sur la dette qui auront dû être versés par les 77 États en voie de développement, aidés par la Banque mondiale, resteront dans leur caisse. Et cela pendant 6 mois, mais 6 mois reconductibles. Et une mesure prise pour que chaque État puisse répondre à l'urgence sanitaire, économique et sociale provoquée par la pandémie. C'est la décision prise par les ministres et banquiers centraux du groupe G20 hier, mercredi 15 avril. Derrick Assoumani nous appelle de Lubumbashi, Julien de Bounia et professeur Moussampa de Mbujimayi, et nous allons continuer cet entretien tout à l'heure avec le sénateur Matata Ponyo Mapon. Derrick Assoumani de Lubumbashi, bonjour.
C'est Assoumani Jeff de Lubumbashi.
Assoumani Jeff, bonjour, quelle est votre bienvenue, quelle est votre question?
Voilà. Nous, notre peur que nous avons toujours dans notre pays est que la République démocratique du Congo, vous le chantez chaque fois que c'est un pays, oui. Mais la peur que nous avons, vous vous prenez des dettes. Que, parce que nous, on se rappelle très bien que quand Laurent Désiré Kabila avait pris le mercenaire, la dette avait resté jusqu'à maintenant. C'est toujours le problème qui s'écoule dans le nord et sud Kivu, là où il y a toujours des tueries et autres. Mais vous voulez prendre encore cet argent-là pour aider la population. Vous dites que c'est pour la sociale et pour l'économie. Cet argent-là ne vont rien servir la population congolaise, à moins qu'ils vont servir dans leur poche nos autorités.
D'accord. Merci. Julien Debounia, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à monsieur le sénateur.
On vous écoute.
Bon, en fait, je voulais poser quelques questions au sénateur. C'est par rapport à ce qu'il vient de mentionner. Il vient de mentionner deux secteurs dans lesquels l'État pouvait intervenir immédiatement. Je lui demande, alors, pourquoi pas aussi le secteur agricole, pêche, élevage? Pourquoi? Parce que pour une bonne sécurité sanitaire, il faut aussi une bonne sécurité alimentaire. Pourquoi pas investir dans la production du gingembre, production de citron. C'est toujours dans le cadre des recherches. Mmh. Mais aussi, je voulais demander une deuxième question. Qu'est-ce qu'il pense de la restructuration des mesures de prévention par rapport à chaque entité de prévention contre le coronavirus? Parce qu'on a remarqué qu'il y a des provinces qui ne sont pas tellement touchées et qui peuvent servir des greniers à d'autres provinces, parce que le Congo est vraiment riche. Et il y a cette particularité d'avoir des cultures par-ci par-là, d'avoir par exemple du maïs dans telle province et qui peuvent subvenir aux besoins de Kinshasa, par exemple prendre de l'arachide dans le Bas-Uélé et servir. Il y a beaucoup d'exemples. Alors, oui. Je voulais demander, est-ce qu'il ne serait pas possible de coupler donc la prévention sanitaire avec la prévention alimentaire?
Sécurité alimentaire. Merci Julien Debounia. Professeur Moussampa, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute,
monsieur
professeur.
Monsieur le journaliste, mon intervention s'articule sur trois points.
Oui.
Je voudrais d'abord parler de la dette comme telle.
Oui.
Toute dette est un appauvrissement par définition. Et lorsque on ne paye pas la dette, il y a remise ou annulation, eh bien c'est un enrichissement, c'est-à-dire le contraire. En deuxième lieu, la dette que nous avons aujourd'hui et qu'on est en train, n'est-ce pas, d'annuler, si pas annuler, disons,
d'alléger, oui.
Si petite soit-elle, peut toujours être utilisé efficacement. Ce n'est pas la première fois. Nous avons eu le programme PPTE. Et je crois que le professeur Matata en sait beaucoup plus. Qu'avons-nous fait de ce programme-là? Et en troisième lieu, je voudrais que l'on puisse nous dire comment allons-nous affecter les retombées, ce que nous allons gagner de cette date-là. Ça sera utilisé comment? Il faut qu'on nous présente le plan d'utilisation pour que nous puissions savoir qu'effectivement cela a servi à notre population. Et comme on dit, il faut respecter l'intention du donateur. On nous demande de le faire dans le cadre de la pandémie. Il faut qu'on affecte cela à la pandémie coronavirus.
Merci.
Alors, qu'on nous dise exactement comment cela sera fait. Mmh. Et le professeur Matata, je répète encore une fois, je crois qu'il est mieux placé pour ça. Merci beaucoup.
Merci, professeur Moussampa. Nestor, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur Jody.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, merci beaucoup de la parole. Je remercie un peu l'invité, l'honorable sénateur Tokisé Matata Antonio, pour tout ce qu'il a pu donner aussi comme édification. Oui, c'est une satisfaction pour le gouvernement et le peuple congolais dans le mesure où cet allègement va un peu apporter un bouffe de soulagement à l'économie congolaise. Mais ma question est celle de savoir, À quoi a servi l'argent emprunté par le gouvernement? D'autant plus que la population est misérable et nous avons même la situation des nouvelles unités qui ne sont pas encore payées au niveau des écoles. C'est ça un peu ma question. Maintenant, c'est pour vous dire un peu, demandez s'il vous plaît, à quoi a servi réellement l'argent emprunté par le gouvernement congolais? Merci.
Oui, merci. Chadrak, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody Daniel, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, bienvenue, quelle est votre question?
Oui, merci beaucoup, moi juste un point de vue. À mon humble avis, j'estime que cet allègement de la FMI, en fait, dans cette période pandémique, je crois que ça pourra apporter un impact très significatif sur le secteur sanitaire. Qu'est-ce que je voudrais dire par là, Monsieur Jody? Moi, j'estime que cet allègement-là par mois, en fait, nous devons verser au moins 25 millions. Si nous prenons le 25 millions fois 6, nous sommes dans des 150 millions. Je crois que, parce que monsieur le professeur Mouyembe, pour son plan de riposte, vous laisse dire, il a besoin des 135 millions pour la ville de Kinshasa. Je crois que ça pourra aider au professeur Mouyembe de bien riposter par rapport à la menace. Qu'à cela ne tienne, moi j'estime à mon humble avis que, en fait, il faut juste mettre du sérieux, interpeller un peu nos autorités afin de canaliser cet argent-là dans ce secteur. Parce que pour le moment, la santé reste la priorité de priorité. Comme les autres le prétendent, parce que cet argent, on l'affecte dans tel ou tel autre secteur. Du fait que nous avons la maladie devant nous, je crois que pour le moment, on ne peut pas envisager d'autres secteurs. La meilleure secteur pour le moment, il faut financer dans les secteurs sanitaires afin de éradiquer la pandémie. Voilà un peu ma manière de voir les choses, monsieur Jody. Je dis et je vous remercie.
Merci, Chadrak de Mbujimayi. Monsieur le sénateur Matata Ponyo, Mapon, vous avez certainement suivi les interventions des différents compatriotes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'esprit de toutes les interventions et je pense qu'il y a une liaison entre la prévention alimentaire et la prévention sanitaire dans la mesure où, comme vous le savez, un corps sain dispose des anticorps capables donc de garantir une meilleure résistance au virus. Et vous l'avez d'ailleurs entendu, le virus est plus agressif dans les corps qui accusent un certain déficit des anticorps. Donc, investir sur le secteur de l'éducation est très important et vous savez, j'ai toujours considéré l'agriculture comme le secteur aussi prioritaire. Donc, je suis tout à fait d'accord.
Qu'on puisse investir dans les secteurs agricoles.
Dans le secteur agricole, c'est tout à fait indispensable. Alors, la dette est un appauvrissement. Bon, écoutez, je ne suis pas vraiment de cet avis-là. La dette n'est pas un appauvrissement, parce qu'en réalité, c'est lorsqu'on reçoit un crédit qu'on peut investir et devenir riche. Les riches d'aujourd'hui sont des personnes endettées ou des sociétés endettées d'hier. Généralement, quand on veut entreprendre, on s'endette. Mais le plus important, et c'est là où je voudrais souligner, c'est qu'il faut que les taux de productivité soit supérieur au taux de rendement au taux d'endettement, voyez-vous. Donc, il faut absolument que ce que vous retirez de l'activité de l'endettement puisse vous permettre de rembourser votre dette, voyez-vous. C'est ce qu'on appelle la capacité de pouvoir rembourser. Et il faut que la dette soit soutenable. Vous avez toujours entendu parler de la soutenabilité d'une dette, c'est-à-dire lorsque vous êtes endetté, l'investissement dans lequel l'argent a été donc absorbé vous permet de générer les ressources permettant donc de rembourser. Donc la dette, ce n'est pas un appauvrissement, mais la dette peut être un appauvrissement. C'est une deuxième hypothèse. Lorsque la dette ne permet pas été remboursé, c'est-à-dire l'argent que vous avez reçu a été mal utilisé. Et à ce moment-là, vous ne serez pas remboursé. Et c'est souvent le cas dans lequel les pays africains sont tombés. Voyez-vous, la plupart des dettes ou des fonds reçus de la dette n'ont pas été rationnellement
remboursés à l'échéance utilisés. Convenue. Oui.
Et tout à fait, oui. Et donc là, c'est une question de, disons que la dette ne peut pas être un appauvrissement. Des principes, lorsque les ressources sont bien utilisées, la dette peut être un appauvrissement lorsque les ressources
ne sont pas bien utilisées. D'ailleurs, il y a une question, un auditeur qui a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de cette, à quoi servit cet argent-là? Parce que la situation sociale des Congolais est toujours, n'est pas toujours bonne, et je pense qu'on a une dette autour des 5 milliards de dollars. On vous a entendu dire ça dans l'entretien avec Billy dernièrement. Oui.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous sommes donc aux environs d'un stock de la dette, d'un encours de la dette, donc de près de 5 milliards de dollars. Et là, vous me faites revenir sur la question de leadership et la question des gouvernances, les fameux binômes qui constituent en fait les détonateurs pour le développement des pays africains, comme cela a été le cas pour le pays donc développé aujourd'hui. Je pense que chaque fois quand on dit que l'endettement n'a pas été bien utilisé, on se réfère à la question de leadership, à la question de gouvernance. Je suis très très mal placé pour le moment parce que j'ai pas la comptabilité, du financement des activités du fait de cet endettement. Donc, mais je pense d'une manière générale, je suis d'accord avec l'auditeur qui a posé cette question.
Oui.
Je pense que jusque là, d'une manière générale, l'endettement n'est pas d'une utilisation efficiente, et ce qui ne permet pas, d'une manière générale, un remboursement aussi régulier de la dette. Et donc, à ce qui concerne la dernière question de l'auditeur de Mbujima, il parlant...
Oui, le professeur Moussampa a parlé aussi du programme PPTE.
Oui,
il voudrait savoir à quoi tout cela a servi.
Oui, j'étais moi-même à l'époque, donc en France, comme vous le savez, la bataille pour l'atteinte du point d'achèvement. J'étais en tout cas l'un des acteurs principaux, parce que j'étais en fait le ministre des Finances, et nous avons donc reçu un allègement de près de 10 milliards de dollars américains, principalement de bilatéraux. Et comme je vous l'avais dit, il y a eu des accords qui ont été signés avec tous ces pays pour nous permettre d'investir le bonus dégagé dans secteurs pro-développementaux. Et c'est ce que nous avons fait. Rassurez-vous, cet allègement nous a permis d'investir énormément dans les secteurs sociaux. Imaginez-vous, j'ai lancé les programmes de construction de 1000 écoles. Nous en avons construit 780. Nous avons beaucoup investi dans le secteur de la santé. Si vous renseignez, vous allez comprendre que ce fut une des périodes où le gouvernement a beaucoup investi dans l'acquisition des équipements de qualité dans le domaine médical, mais aussi dans la réhabilitation et la construction des hôpitaux. Nous avons aussi investi dans la réhabilitation des routes, tout comme nous avons investi dans l'amélioration. Parce qu'en fait, l'éducation, c'est pas seulement la construction des écoles. L'éducation est complexe. Et nous avons travaillé aussi pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement à travers notamment la formation des enseignants, mais aussi l'acquisition de la didactique. Donc tout ce qui peut être considéré comme les outils permettant aux enseignants de pouvoir bien donner les cours. Mais sinon, pour rentrer sur la question de la compatibilité entre les ressources qui seront dégagées du fait du report donc du service de la dette, par rapport aux besoins exprimés par le professeur
Moussampa,
docteur Mouyembe, en ce qui concerne la couverture de la réponse,
ah, oui,
de 135 millions de dollars.
Oui.
Je pense à mon avis qu'effectivement son raisonnement est tout à fait cohérent. Dans la
tout
mesure
à fait.
Où vous ne pouvez pas payer 20 millions ou 25 millions de dollars par mois parce que vous avez reçu un allègement. Et pendant que vous avez des dépenses à faire pour couvrir, les engagements en termes de couverture
de besoin pour faire donc pour bien gérer la riponde. Je pense que à mon avis la corrélation qu'il a faite est tout à fait pertinente. Une bonne partie de ces ressources pourrait permettre à l'État d'être plus ou moins à l'aise dans le financement de son plan contre coronavirus.
Oui. Bien, nous allons faire un tour à Matadi pour suivre ce reportage un reportage sur les impacts de la crise sanitaire sur les activités économiques des PME de Matadi dans la province du Congo central. Un reportage de Nana Plurish Mambo.
Au Congo central, les mesures restrictives prises le 18 mars dernier par le chef de l'État pour contrer l'expansion de la pandémie du COVID-19 ont été mises en application au lendemain de leur annonce. Depuis cette date, bistrots, restaurants, pâtisseries, bref, presque toutes les activités dans les secteurs des petites et moyennes entreprises restent paralysées. L'on ne sait jusqu'à quand prendra fin cette crise sanitaire ayant entraîné la fermeture de plusieurs PME dans la ville de Matadi. Ayant perdu 80% de son capital, Martin Bakolé, tenancier d'un restaurant pâtisserie au quartier Kinkanda dans la commune de Matadi, doute de pouvoir relancer ses activités après la crise.
À notre grande surprise, après ces décisions, on avait des stocks de choses qu'on devait vendre. Et malheureusement, beaucoup de choses se sont périmées. Et l'épée d'argent qu'on avait entre nos mains, on était obligé de payer les loyers, les courants. Et l'épée qu'on avait dans la caisse, je peux dire 80% de tout ce qu'on avait entre nos mains, c'est allé dans des dépenses. Et jusqu'à ces jours, depuis le 18 mars, mon restaurant et le bistrot n'ont jamais été ouverts. Et les factures du mois de mars, la SNE, la régie des eaux, c'est arrivé. Les gens de la DGI continuent à faire pression pour que nous puissions payer l'impôt. Et on ne sait pas dans quelles conditions on va relancer les activités. Nous devons faire des prêts de gauche à droite pour que nous puissions relancer les activités. Vraiment, je souhaiterais vraiment que l'État congolais puisse voir un peu notre situation dans l'organisation du PME, parce qu'on a tous les documents, on paye l'État, on paye l'impôt. Et maintenant là, j'avais 5 travailleurs et tous les 5 sont en chômage. Quand ils vont revenir après la pandémie, comment on saura payer encore 5 travailleurs? Ça sera compliqué, on sera obligé de réduire le nombre de travailleurs. Franchement, je souhaiterais vraiment que l'État puisse un peu réfléchir par rapport à la situation des PME. D'abord, on a du mal à accéder aux subventions. C'est déjà un problème sérieux. Mais s'il fallait prendre des prêts, il faut donner des gages dans des banques. Mais on n'en a pas. Mais comment on va faire?
Martin Bakolé n'est pas le seul à être frappé par les vents de cette crise sanitaire. Mami Pemba aussi, tenancière d'un restaurant-bar au centre-ville, en a pour son compte. Veuve de son état, elle nourrit et scolarise 6 enfants grâce à son commerce. Son restaurant était très fréquenté par les fonctionnaires de l'État, dont les services sont logés au building Les Dragages, au regard de ses prix défiant toute concurrence. Accusé par les forces de l'ordre pour avoir foulé aux pieds les mesures sanitaires édictées par l'autorité de l'État, Mami Pemba a vu ses marmites de nourriture être saisies. Cette dernière indique qu'elle a du mal à redresser la pente.
Quand je pense à cette situation, ma chère, j'ai des larmes aux yeux. Les marchandises saisies peuvent s'évaluer à 700 000 francs congolais. Avant l'annonce de mesures par le chef de l'État, j'avais déjà stocké les marchandises de plus de 1 200 $. Tout est parti comme de la fumée. D'autres saisis par des forces de l'ordre et d'autres qui étaient stockés à la maison ont été tous consommés. Nous sommes presque à un mois de l'arrêt des activités. Le matin, je sors la marchandise et prépare pour les enfants. Le soir aussi, je fais le même exercice. Et pour l'heure, il ne me reste plus rien. Si l'État congolais peut même nous aider avec des emprunts, nous les paiements, ça sera vraiment une bonne chose. Parce que même la déscolarisation guette mes enfants.
Ayant appris l'allègement de la dette extérieure de la RDC par les Fonds monétaires internationaux, ces PME qui n'ont jamais été subventionnés par l'État congolais ne souhaitent pas solliciter des emprunts auprès des institutions bancaires par manque de gages. D'où leur appel d'aide à l'État congolais. Martin Bakolé, PME dans la ville de Matadi.
Mais que les autorités congolaises puissent être conscientes de la réalité. Certes, on a allégé la dette, mais en retour, qu'est-ce que la population pourra bénéficier derrière cet allègement de dette? La meilleure façon où la population peut se retrouver, c'est d'accompagner les PME, d'aider tous ces mamans qui sont dans des petits commerces de gauche à droite, d'aider les jeunes qui ont des initiatives, des entreprises qui peuvent contribuer à la diminution du chômage. Parce que les entreprises de l'État elles-mêmes ne peuvent pas diminuer le chômage, mais en accompagnant beaucoup de jeunes qui sont dans l'initiative de créer des entreprises, cela pourrait contribuer à la diminution du chômage.
À la question sur la relance des activités chez les PME, Michel Samba, premier vice-président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, plaide pour un accompagnement des PME afin de voir la situation redevenir à la normale.
Et la question sur le PME, c'est un accompagnement conséquent, qu'on attend du gouvernement, pas trop de pression fiscale. Vous savez, cette situation malheureusement, aura une incidence négative sur la main-d'œuvre, car certains opérateurs fermeront. Et bien, il y a des agents, personnel qui sera dans la rue, c'est dommage.
Pendant que les activités sont à l'arrêt, l'inquiétude est perceptible chez bon nombre de PME, surtout ceux-là ayant contracté des crédits dans des banques. Pour échapper aux poursuites judiciaires et au remboursement frappé des pénalités, plusieurs d'entre eux jugent-ils de vendre leurs maisons et d'autres avoirs pour s'acquitter librement de leurs obligations. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Bien, merci Nana Plurish pour ce reportage sur la situation des PME de Matadi qui sont en souffrance. Monsieur Matata Ponyo Mapon, vous êtes Premier ministre honoraire, sénateur. Alors qu'est-ce qui peut être fait pour aider ces PME à ne pas fermer complètement?
Ben, je suis tout à fait d'accord avec le reportage à 100% qui a été fait par votre collègue, des journalistes, que je félicite d'ailleurs. Je partage aussi les préoccupations de tous les opérateurs économiques qui ont été interviewés. Mais vous savez, monsieur les journalistes, la richesse d'une nation, ce n'est pas le secteur public, contrairement à ce que les gens croient. La richesse d'une nation, c'est le secteur privé. Et plus encore, la petite et moyenne entreprise peut être considérée comme la plus grande richesse. Vous savez, des pays comme l'Italie, le petit et moyenne entreprise contribue pour beaucoup dans la formation du PIB de ces grands pays parmi les 7 les plus industrialisés au monde. Donc, dans la batterie de mesures que je proposais au profit du gouvernement, comme la contribution de mon cabinet d'études, Congo Challenge, pour faire face à cette question de coronavirus dans ses impacts socio-économiques. Imaginez-vous que notre économie va tomber dans la récession. La récession, c'est-à-dire la destruction des richesses qui seront créées par le pays au cours de l'année 2020, alors que le taux de croissance de la population va être certainement, comme d'habitude, aux environs de 3-3.5%. Donc, il faut absolument, messieurs les journalistes, à ce que l'État congolais puisse trouver les voies et moyens pour pouvoir soutenir non seulement la petite et moyenne entreprise, mais les autres entreprises. Parce que si on ne le fait pas, l'État congolais va tomber dans un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que l'essentiel des recettes fiscales ou des recettes budgétaires, ce sont des recettes qui sont tirées sur l'assiette fiscale. L'assiette fiscale, c'est quoi? L'assiette fiscale, c'est le volume d'activité du secteur privé. Si le volume d'activité du secteur privé diminue, dans lequel on retrouve d'ailleurs le petit et moyenne entreprise, c'est que l'assiette fiscale va diminuer. Si l'assiette fiscale diminue, c'est-à-dire le taux de prélèvement va aussi permettre à l'État de mobiliser moins de ressources qu'avant. Face à des volumes de dépenses parfois restant contraignants, c'est-à-dire les dépenses des salaires, vous n'allez pas les diminuer, c'est une dépense pratiquement qu'on appelle une charge fixe.
Oui.
Et ce sera très compliqué. D'où la nécessité. Et vous l'avez vu, messieurs les journalistes, à travers le monde, les plans ont été montés pour pouvoir venir au secours du secteur privé. Et ce n'est pas par bénévolat, ce n'est pas par amour, c'est tout simplement par logique économique. C'est vrai, nous sommes tous préoccupés par le nombre des morts. Tout le monde, y compris moi-même, nous sommes éligibles à la mort parce que le coronavirus ne choisit personne. Vous l'avez vu, et même des grandes personnalités comme Boris Johnson ont été affectées par le virus. Et donc, nous tous, nous sommes éligibles. Mais ce que nous devons savoir, c'est que le coronavirus n'a pas que d'impact sanitaire, c'est-à-dire coronavirus n'a pas que d'impact sur la mort des individus. Le coronavirus, il impacte la mort, il impacte donc la vie des hommes par la mort. Ça c'est un acquis, on le refuse pas.
Oui.
Mais l'autre impact qui est plus important, qui va s'inscrire dans la durée, c'est la pauvreté. C'est l'impact sur le secteur économique et social. Et là, comme vous l'avez vu, beaucoup de pays s'occupent des deux aspects. Le premier aspect, c'est comment trouver les vaccins, c'est comment trouver, disons, les médicaments, et c'est comment soigner ceux qui sont affectés
pour minimiser les dégâts collatéraux, mais au même moment, vous avez vu même la bataille entre le président Trump et les gouverneurs de certaines provinces, c'est comment relancer rapidement la machine économique pour ne pas tomber dans le cercle vicieux, voyez-vous.
Voilà.
Donc là, pour répondre à votre question, j'ai recommandé ça au gouvernement, et je peux encore le répéter, il faut absolument que dans le plan d'urgence, qui sera donc avalisé par son Excellence le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il faut absolument que le volet soutien au secteur privé, particulièrement aux petites et moyennes entreprises, soit trouvé. Et les financements peuvent provenir, comme je l'ai dit, d'un effort de mobilisation des ressources internes, notamment par la lutte contre la fraude et la corruption, mais principalement, compte tenu de l'urgence, par l'obtention de certains crédits ou de certains dons auprès des institutions spécialisées, notamment des institutions multilatérales, financières, ou auprès de bilatéraux.
D'accord. On va terminer avec deux auditeurs. Quels sont les effets de l'allègement de la dette de la RDC par le FMI? Bienvenue, Chikala, vous êtes à Kikwit, Deo Gracias, à Kalemi. Bienvenue, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour Radio Okapi.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, j'ai dit d'entrée, j'aimerais poser une petite question au Premier ministre honoraire. Je lui ai suivi minutieusement. Quand il parle au Congo, nous avons un problème de leadership. Lui, en tant qu'ancien Premier ministre, je crois qu'ils doivent assumer. Au-delà de ça, ma question est juste celle de savoir, est-ce que avec l'argent dégagé par rapport au non-paiement de la dette auprès de l'institution de Bretton Woods, le gouvernement ne peut pas supporter le PME parce qu'aujourd'hui, nous, les petits commerçants, on ne sait pas tenir les coûts. Nous suivons ailleurs, aux États-Unis, en France, partout ailleurs. Comment est-ce que le gouvernement supporte l'économie en donnant de l'argent? Chez nous, ça ne pourrait pas se faire avec cet argent qui va récupérer de notre paiement, de notre dette.
Voilà. Vous voulez que le gouvernement fasse des dons au PME?
Non seulement des dons, mais le gouvernement peut supporter le PME parce que pour le moment, je vous dis, en un mois seulement, nous ne parvenons pas à tenir les coûts. Il y a de l'impôt, il y a les gens que nous devons payer. Donc, tout ça, on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive à venir. Donc, on est asphyxié. Le gouvernement ne peut pas supporter le PME pour une durée parce que nous savons bien que la richesse d'un pays est dégagée par le PME. Maintenant, nous ne tenons pas les coûts.
D'accord. Merci. Bienvenue, Chikala. Deo Gracias de Kalemi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, pour moi, je félicite d'abord l'ancien premier ministre, le ministre honoraire, M. Matata Ponyo. Et pour moi, juste, je voulais d'abord dire que notre économie de la République démocratique du Congo, comme certains de nos auditeurs les ont soulevés, c'est vraiment extraverti. Alors, moi, je me dis, aujourd'hui, d'abord, nous félicitons les FMI pour avoir allégé les 20 millions de dollars pour le compte de notre pays. Et aujourd'hui, maintenant, moi, la question que je me pose, par exemple, ici chez nous, à Kalemi, on voit qu'on a allégé aussi, il y a des mesures qu'on a prises ici, dans notre pays, où il y a certaines choses qu'on a allégées par rapport aux petits commerces, histoire de taxes, impôts, qu'on a essayé un peu d'aménager là. Et maintenant que nous dépendons de l'extérieur, qu'est-ce qu'il peut nous dire comme techniquement, qu'est-ce qu'il peut nous dire pour maintenant parvenir à surmonter cette pandémie? Par exemple, ici à Kalemi aujourd'hui, je me demande, est-ce que si un cas tombait ici à Kalemi aujourd'hui, où est-ce que nous allons nous avoir? Parce qu'on ne voit rien comme disponible. Hier ici, on était en train de me dire qu'il n'y a que, je pense que c'était si c'est ACR ou quoi qu'il était en train de doter la province ici, les thermoflasques là, pour épais la température. Imaginez ces choses-là. Donc, quelqu'un me disait que non, on avait seulement dit ces deux, l'autre qui était à l'aéroport, quand quelqu'un est au niveau du port là-bas, il fallait envoyer l'autre du port de l'autre côté. Donc, vous trouvez ça que c'est compliqué.
Voilà. Donc,
on ne peut pas prendre.
Oui.
Je vais prendre l'exemple peut-être du président tanzanien. Lui, quand même, il le dit officiellement en disant que non, je ne ferme pas les frontières. Hier, on nous a communiqué que Burundi aussi venait d'ouvrir les frontières, donc pour que les cargos peuvent passer, les transports. Maintenant, ici, chez nous, pour surmonter, qu'est-ce qu'on va faire?
D'accord,
pour
merci.
Aider aussi les petits. Parce que les prix ne fait que...
Oui, les prix des articles...
Il y a flambé des prix ici à Karim, on ne comprend rien.
Oui, merci, merci Deo Gracias. André Kazaï nous appelle des Dungu, bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour à tous les auditeurs de la radio au Capier. Combien vous me suivez?
Oui, on vous écoute 5 sur 5. Quelle est votre question, André?
Oui, j'ai dit Daniel Kachama. Premièrement, disons, je voulais commencer par une petite contribution. Personnellement, le peuple, disons, les citoyens congolais ne profitera à rien avec ça.
De cet
avec
allègement.
De la dette. Puisque... Allô?
Oui, allez-y, rapidement.
Ouais. Maintenant, je vais revenir à la question. Est-ce que cet argent ne peut-il pas aider à chose à pendant la période après le Covid-19? Ouais, c'est presque ça.
Bien, merci. J'avais annoncé que c'était la fin, mais je vois il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent participer. Alors, on va prendre quelques-uns. Moïse Mukuna de Demba, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Quelle est votre question, Moïse Mukuna?
Oui, ma question est d'abord, je remercie d'abord la FMI et la Banque mondiale pour l'esprit de serviabilité qu'ils nous ont manifesté, en raisonnant aussi dans la manière dont ils ont allégé notre dette. Mais ma question est celle de savoir, quand la FMI a fait cet allègement, le système de gagnant-gagnant là ne sera pas compté? L'autre question aussi, comment la FMI va se ressaisir après cet allègement? Merci beaucoup.
Bien, merci. Monsieur le sénateur Matata Ponyo, vous avez la parole.
Oui, bien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette batterie des questions. Ben, je pense que, dans la mesure du possible, tout converge vers... le bien fondé de cet allègement. Mmh. Alors, Deo Gracias de Calemi voudrait savoir est-ce que ces ressources vont pouvoir, disons, les ressources issues de cet allègement, si ça peut aider le pays à faire face au coronavirus.
Surtout à Calemi où il n'y a aucune disposition jusqu'à présent, d'après lui.
Mais Calemi fait partie de la RDC, donc je pense que il appartient plutôt au gouverneur de la province de Tanganyika, et à Monsieur Zoé Kabila, d'exprimer donc tout ce besoin au niveau du gouvernement central et pour voir comment est-ce que les retombées de cet allègement peuvent donc bénéficier aussi non seulement à la province de Tanganyika, mais à l'ensemble des provinces du pays. Mais je ne partage pas le point de vue de Monsieur Deo Gracias quand il dit que il faut plutôt ouvrir
les frontières.
Les frontières, non, je pense pas. C'est très dangereux. Aujourd'hui, nous voyons très bien les conséquences des pays européens qui n'ont pas voulu prendre des mesures de protection bien à temps, laissant ainsi le virus s'introduire et se propager. Et à travers donc le pays. Et les pays qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, même au niveau européen, ce sont des pays qui ont pris des mesures préventives très tôt. Alors, s'agissant de monsieur André de Dungu, qui disait que bon, le peuple ne profitera pas
de cet allègement.
De cet allègement, bon, je ne sais pas si il a d'autres clés de lecture ou de traitement d'un allègement, dans la mesure où les ressources qui devaient être payées à l'extérieur, près de 20 millions de dollars mensuellement, et que ces ressources ne sont pas payées, et que ces ressources peuvent servir notamment au financement de certaines activités pour couvrir la riponse des coronavirus. Vous savez, le professeur Mouyembe, j'ai suivi quelqu'un qui a parlé d'un montant de 135 millions de dollars. Moi, je pense que ces ressources peuvent effectivement, contrairement à ce qu'il dit,
servir au peuple congolais. Alors, Mukuna Moïse parle d'un système gagnant-gagnant entre le Fonds monétaire international et les
États, la RDC particulièrement.
Qui bénéficie donc de cet allègement. Bon, je ne sais pas où se trouvent les systèmes gagnant-gagnant, mais vous le savez, toutes ces ressources que le Fonds monétaire, ou d'une manière générale, les institutions internationales ou multilatérales donnent, ce sont des ressources qui sont cédées à des taux très concessionnels. Dites-moi, monsieur le journaliste, lorsque vous me devez $100 ou $1,000 mensuellement, et que je vous demande de ne pas me les payer mensuellement pour faire face aux problèmes, du day qui survient chez vous, je ne sais pas qu'est-ce que vous gagnez, mais je pense que le plus gagnant, c'est moi. Le plus gagnant, c'est vous qui bénéficiez donc de cet allègement, parce qu'à ce moment-là, si vous ne me payez pas, et donc vous bénéficiez. Et je crois ici la partie qui gagne le plus, c'est l'État congolais. Mais je voudrais revenir sur la question importante qui a été posée, question de leadership, question de gouvernance. Je pense, monsieur le journaliste, les études que nous avons faites, s'agissant notamment de la période qui court entre 2012 et 2016, où la RDC a enregistré les taux de croissance les plus élevés, en moyenne de 7,7 par an, contre une moyenne de 3,5 pour l'ensemble du continent africain. Ces études ont démontré qu'au cours de cette période, un leadership de qualité et une gouvernance de qualité, attestée d'ailleurs par des institutions internationales comme la Banque mondiale, ont permis à la RDC de réaliser des performances économiques qui n'ont jamais été égalées en moyenne depuis 1960. Donc, je ne pense pas que le leadership n'a pas été exercé. Il y a eu des cas où le leadership de qualité, la gouvernance de qualité ont permis à la RDC de réaliser des performances importantes. Il faut le savoir, monsieur le journaliste, c'est que pendant que la RDC a réalisé ces performances historiques, la RDC n'était pas en programme avec le Fonds monétaire international. Mais la stabilité macroéconomique, qui est, comme vous le savez, l'une des recommandations principales du Fonds monétaire international, la stabilité macroéconomique a été réalisée. Et même la qualité institutionnelle qui a permis d'améliorer la gouvernance, elle aussi, elle a connu une amélioration non négligeable. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument que les ressources dégagées de cet allègement puissent bénéficier d'un leadership de qualité, d'une gouvernance de qualité, et c'est ce qui permettra un ruissellement de ces ressources vers les secteurs sociaux, notamment l'éducation et la santé, et ce qui permettra à la RDC de pouvoir assurer une riposte de qualité contre le coronavirus.
Bien, Monsieur Matata Ponyo-Mapon, sénateur et Premier ministre honoraire, nous disons merci et excellente journée.
Merci merci à tous les amis de la République démocratique du Congo qui ont eu l'amabilité de me poser des questions, et je souhaite qu'on puisse en parler à une autre occasion.